Voilà, bonjour à toutes et tous. Comme l'ont fait les personnes avant moi, je vais commencer par remercier les organisatrices et organisateurs du colloque. Je suis très heureux, d'autant plus heureux de pouvoir présenter ma recherche actuelle en ces lieux qui me sont chers pour les raisons qu'a évoquées. Je vais présenter ma communication en français, mais je réponds volontiers à des questions en anglais s'il y a lieu. Voilà, la communication que je vous propose aujourd'hui repose sur mon projet de recherche actuel qui porte sur une nouvelle forme d'activité sportive nommée street workout, freestyle calisthenics ou bar hitting par ses participants. Alors le fait même qu'il n'y a pas encore de terme arrêté pour décrire la pratique sportive montre combien ces frontières sont encore en cours de négociation. C'est une pratique qui a moins de 5 ans, donc on est encore en plein processus de négociation. D'ailleurs l'usage des termes est aussi un enjeu de négociation très important chez les pratiquants. Conformément à la démarche qui a été proposée par les organisatrices et organisateurs, je pars du principe, vous avez lu mon papier, et je vais aller directement à des exemples plus ethnographiques. À ce propos, un petit mot sur ma méthode. J'ai engagé une ethnographie multisite, et j'emploie le terme site au sens aussi bien topographique que virtuel, puisque une partie de mon ethnographie se fait en ligne. Qui repose de manière classique, je dirais, sur un travail d'observation et sur la réalisation d'entretiens. Dans le cas présent, ces entretiens ont été menés avec des pratiquants californiens, new-yorkais et aussi quelques pratiquants européens. Et à ces techniques, je dirais, classiques, s'ajoutent deux régimes d'engagement méthodologique un peu plus spécifiques. Premièrement, alors, j'ai lancé mon PowerPoint que j'ai complètement oublié. Alors, premièrement, j'ai conçu un site internet, en fait, qui s'appelle typewriters.org, et qui propose des extraits d'entretiens que je mène, donc je filme les entretiens que je mène, et le but, c'est d'établir une espèce de plateforme en cours de recherche ethnographique pour donner la possibilité aux participants de laisser des commentaires sur Internet. Donc le but ici, c'est de se rapprocher autant que possible d'une méthode, je dirais, polyphonique et symétrique. Typewriter, c'est pas un choix qui est anodin. Le typewriter, c'est une figure de street worker, vous verrez tout à l'heure, et en même temps, ça fait référence au processus ethnographique et à l'activité d'écriture. Voilà, deuxièmement, le deuxième régime d'engagement méthodologique un peu plus spécifique, c'est que j'intègre à ma méthodologie une approche auto-ethnographique et donc l'observation de ma propre participation et surtout de mon propre apprentissage de ce sport. Alors, je ne vais pas rentrer dans une définition approfondie parce que les images parlent mieux que ce que je pourrais vous dire, mais très rapidement, cette discipline consiste à performer des enchaînements d'exercices dits au poids du corps, c'est-à-dire dans lesquels on utilise uniquement le poids du corps comme résistance. Les pompes sont un exemple, les tractions, les pull-ups sont un autre exemple. Je vais vous dire encore quelque chose avant de montrer une vidéo. D'un point de vue historique, la plupart des pratiquants s'accordent sur le fait que c'est une série de vidéos tournées dans des parcs publics à New York et qui ont été postés sur le portail internet YouTube dès le milieu des années 2000, qui marque véritablement la naissance du street workout dans sa forme actuelle. Donc je vais vous montrer l'une de ces vidéos qui s'appelle Hannibal for King, du nom de la personne qui performe les exercices. Voilà, alors j'en viens à l'importance des vidéos dans la circulation transnationale de ce sport. Effectivement, en fait, ces premières vidéos ont immédiatement rencontré un énorme succès sur internet, si bien qu'aujourd'hui, la pratique du street workout s'est largement diffusée mondialement, essentiellement grâce à la circulation de ces vidéos. Alors, juste à titre indicatif, je vous ai fait une petite image des statistiques géographiques de mon site. Donc, voici d'où viennent les gens qui consultent les vidéos qui sont sur mon site. Donc, on voit que le mot diffusion colle assez bien. Voilà. Alors, en fait, le partage constant de ces vidéos participe à la construction d'une communauté imaginaire transnationale à laquelle s'identifient la plupart des pratiquants et permet de pallier l'absence quasi totale d'institutionnalisation qui caractérise le street workout. Pour le dire de manière directe, sans YouTube, et d'ailleurs mes interlocuteurs le disent sans cesse, sans YouTube, ce sport ne pourrait pas exister sous sa forme actuelle et dans sa distribution actuelle. Alors, les vidéos et leur partage permettent en effet l'établissement et la constante négociation des règles du jeu, servant à distinguer les différents exercices pouvant être considérés comme légitimes à la pratique et à fixer une échelle de valeur pour juger de la qualité des prestations. J'en viens maintenant à l'apprentissage des techniques et ce que j'ai appelé la mise à l'épreuve du corps par l'image. C'est vraiment le cœur d'argument que j'aimerais développer aujourd'hui. À une échelle individuelle et donc du point de vue de la carrière des pratiquants au sens de l'école de Chicago, ces nouvelles technologies et plus particulièrement le partage des vidéos jouent un rôle crucial dans la découverte du sport, mais aussi dans l'apprentissage des techniques corporelles qui lui sont propres, selon des modalités que mon enquête ethnographique se propose de mettre à jour. Alors, pour illustrer ce point, je vous ai monté un petit film que je n'ai pas encore publié sur mon site, mais qui va être probablement publié bientôt. C'est un entretien que j'ai mené avec un pratiquant suisse et un pratiquant autrichien, et tous deux reviennent sur la manière avec comment ils ont découvert le sport, premièrement, et comment ils ont appris les mouvements, et notamment le muscle-up, qui est le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure, qui est donc une traction et un dip, qui c'est pas forcément très facile. Je tiens à dire qu'ils ont tenu à... Je trouve que c'est aussi assez parlant d'un point de vue de communauté imaginaire transnationale. Ils ont tenu à faire l'entretien en anglais, alors que moi, je le proposais de le faire en allemand. Voilà. Donc, vous avez noté que l'on retrouve ici la vidéo Hannibal for King, que je vous ai montré au début, puisque tous les deux la citent comme étant la manière avec laquelle ils ont découvert le street workout. Ce qui est amusant, c'est que moi-même, j'ai découvert le street workout à travers cette vidéo, et j'ai décidé d'écrire un projet de recherche pour faire une recherche sur ce sport à partir de cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que absolument tous mes interlocuteurs, sans exception, ont cité cette vidéo comme influence principale, à l'exception de quelques vieux de la veille, si je puis dire, à New York, qui, eux, ont participé au développement lui-même de l'activité. Donc, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que l'entretien laisse entrevoir combien cette vidéo sert non seulement de déclencheur, mais aussi de médiateur pédagogique pour l'apprentissage des mouvements et techniques corporelles propres au street workout. Alors, l'apprentissage consiste premièrement en deux étapes, il y en aura une troisième dont je vais vous parler tout à l'heure. Premièrement, visionner la vidéo, bien entendu, et deuxièmement, la mettre en pratique corporée, imiter et apprendre par corps jusqu'à être capable de reproduire les exercices. Alors, c'est vraiment une mise à l'épreuve et je trouve que c'est intéressant de porter attention au vocabulaire utilisé dans les entretiens. I try. On sent que la notion d'épreuve est particulièrement porte bien son nom dans le cas présent. Et donc c'est ce que j'appelle une mise à l'épreuve du corps par l'image et qui participe d'un travail constant de traduction d'un corpus de matériel audiovisuel en une expérience corporée kinesthésique. On en a parlé tout à l'heure. J'ai un autre extrait d'entretien que j'aimerais vous montrer. Et là, c'est ici un pratiquant new-yorkais. Et encore une fois, je vous invite à porter attention au vocabulaire qu'il utilise. Vous allez voir qu'on sent cette traduction. Il parle de « viewing »,« watching », et puis tout d'un coup... Il adopte un autre body language, il simule les choses et il passe à un vocabulaire qui fait référence au sens, au ressenti. Et donc, donc dans un deuxième temps, la mise en circulation de ses propres photos et vidéos permet de parfaire l'apprentissage, puisque documenter sa propre pratique et la partager sur la toile, que cela soit sur YouTube, Facebook ou sur des forums spécialisés, permet de recevoir les commentaires de ses pairs à propos de l'exécution des mouvements ou de l'évolution de la progression. Alors, on a un exemple là sur un forum spécialisé francophone qui s'appelle Barhitting. Il y a un pratiquant... il y en a des millions d'exemples, j'ai juste pris un exemple qui m'est proche en temps, parce que je l'ai découvert récemment. Donc il demande, voilà, ça c'est un exercice qui est une progression vers la full planche, qui est un exercice de gymnastique où le corps est de cette manière complètement horizontal. Donc il demande si la progression est juste et il reçoit le commentaire des pairs. Voilà. Alors ce qui est important dans cette démarche, c'est que chaque pratiquant devient non seulement pratiquant, mais aussi juge et enseignant de potentiel de ses pairs. Alors je passe à ce que j'appelle l'image et l'épreuve du corps, c'est que justement l'idée que je veux développer ici, c'est que les pratiquants street workout apprennent donc également à mettre l'image à l'épreuve de l'expérience kinésiologique et donc à juger d'un mouvement filmé ou photographié en le confrontant à leur propre expérience corporelle afin d'évaluer sa difficulté ou la qualité de sa réalisation. Et c'est exactement le kinesthetic empathy dont on parlait tout à l'heure, donc la référence est particulièrement intéressante pour moi. Ce partage d'images et de commentaires par l'intermédiaire des nouvelles technologies devient alors central dans l'apprentissage du street workout et donc dans son existence même. C'est d'ailleurs précisément ici que se joue l'articulation entre le niveau individuel relatif à l'apprentissage et à la carrière et le niveau macro, celui de cette communauté imaginaire transnationale dont je vous parlais tout à l'heure. En définitive, et c'est ce que j'ai tâché d'illustrer aujourd'hui, l'apprentissage du street workout et plus largement son existence même procède de l'itération constante d'un enchaînement de mise à l'épreuve du corps par l'image et de l'image par le corps et participe donc d'un travail constant de traduction coproduit par les acteurs humains et les objets technologiques d'un corpus de matériel audiovisuel en une expérience corporelle, kinesthésique et vice-versa. ma conclusion théorique, qui fait écho aussi bien à la posture que je m'efforce d'adopter en ma recherche, mais aussi à ses premiers résultats, invite donc à dépasser le sociodéterminisme typique des théories sociologiques classiques sur l'apprentissage des techniques du corps. Ainsi, au contraire de la division voyant dans l'incorporation un mouvement allant du social, dont on présuppose l'immatérialité et l'homogénéité, vers le corps, dont on présuppose qu'il est un réceptacle biologique préexistant au social, l'apprentissage du street workout et l'intense recours aux nouvelles technologies audiovisuelles qui lui est propre, telles que je l'ai décrit, invitent à trois mouvements épistémiques. Premièrement, reconnaître la capacité des acteurs à s'engager, à engager leur corps dans plusieurs régimes d'action, et plus largement à reconnaître dans l'apprentissage corporel un processus non pas passif et subi, mais relevant d'un engagement actif et réflexif. Deuxièmement, dépasser l'opposition corps versus esprit, typique du paradigme classique voyant l'apprentissage corporel comme un processus largement inconscient échappant à toute forme de médiation, et notamment discursive. Et enfin, troisièmement, traiter les techniques du corps non pas comme le façonnage d'un corps dont on présuppose l'existence, mais les comprendre comme véritable épreuve du corps qui se construit et se révèle à lui-même au travers de leur mise à l'épreuve, processus dans lequel la participation et la médiation des acteurs non humains s'avèrent déterminantes.